itinéraire d'un enfant pas gâté.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau podcast de l'Afropolitaine. L'Afropolitaine est un espace de libre parole et de réflexion dédié aux femmes noires. Parce que chaque Afropolitaine a un parcours différent qui mérite d'être entendu, l'Afropolitaine se veut être une sphère où les femmes africaines se rencontrent, échangent et s'inspirent les unes les autres. Je suis Mélissa et je vous invite à découvrir le parcours de ces femmes africaines qui sont saisissantes et captivantes. Parce que les hommes et les femmes sont interdépendants et que nous avons besoin les uns des autres pour avancer, l'Afropolitaine vous propose une mini-série de podcasts où la parole est donnée aux hommes africains. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Jean-Claude Barny.
Bonjour Mélissa.
Hello Jean-Claude, comment tu vas ?
Très bien.
Alors, je te remercie déjà d'avoir accepté de participer à ce podcast. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas ?
Alors, pour paraphraser ce que je viens de dire, je suis d'origine afro-caribéenne, de Guadeloupe et de Trinidad-Tobago. J'ai un parcours d'autodidacte. J'ai commencé le cinéma, je pense, vers l'âge de 15-16 ans, en regardant des films, en faisant une culture cinématographique. Beaucoup de films néo-réalisme italien et aussi beaucoup de films, ce qu'on appelle aujourd'hui des films de série B, les films de karaté, les western spaghetti. Et puis après, il y a eu les années 80 avec des films beaucoup plus entertainment. Et très vite, j'ai décidé que le média du cinéma m'intéressait parce que j'avais envie aussi de parler de ma communauté. Et donc, j'ai choisi le cinéma pour en parler.
D'accord. Alors, ce que j'aime bien, c'est que tu es tout de suite rentré dans le vif du sujet. Donc, tu es réalisateur de films pour le cinéma français. Tu as réalisé des films à succès, notamment Negmaron, Tropicamère pour la télévision, Le Gang des Antillais pour le cinéma, Rosé le Soldat. Et tu as également réalisé de nombreux clips pour des artistes, notamment Doc Gineco, Negmaron, Kassav. Et je voulais te demander pourquoi tu t'es lancé dans cette carrière. Est-ce que c'est une vocation qui remonte à l'enfance? Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton métier?
Non, je dirais que si je suis entré dans ce média qui est le cinéma, c'est aussi parce qu'il y avait une place. Moi, quand j'étais ado, je ne voyais pas beaucoup de réalisateurs ni de comédiens qui pouvaient m'incarner. Souvent, on dit que quand il y a une place, il faut essayer de la remplir. Et puis très vite, je me suis rendu compte que j'avais aussi des choses à dire, comme beaucoup d'autres copains. J'étais dans une sorte de famille, entre guillemets, où c'était plutôt le graph, la musique. Il y avait très peu de... Enfin, le cinéma, ce n'était pas un art prégnant. C'était plutôt les arts urbains qui étaient plutôt en avant. Et moi, j'étais un peu malheureux parce que je ne savais pas graffer, je ne savais pas chanter, je ne savais pas danser, je ne savais rien faire de tout ça. Et puis, très facilement, quand j'ai rencontré une autre famille qui était plutôt dans le cinéma, mais c'était des jeunes, tout comme moi, qui avaient entre 17 et 18 ans, je me suis senti attiré par ce mouvement-là. Et donc, on s'est rejoint. Puis, très vite, moi, au début, on me demandait si j'allais jouer à la comédie. Mais c'est pareil, aucun talent là-dessus. Mais je savais que j'avais envie d'écrire, j'avais envie de raconter. Donc, j'ai essayé une première fois en écrivant un premier court-métrage. Et puis, comme souvent, la magie opère, ça a fonctionné. Et je lui dis, tiens, voilà, peut-être c'est là où j'ai du talent. C'est peut-être raconter des histoires à travers le cinéma. Donc ça commence comme ça avec un premier court-métrage. Et puis la chance que j'ai eue, je parle encore. La chance que j'ai eue, c'est que je suis arrivé aussi avec une sorte de génération qui avait besoin d'images. Donc comme tu as dit, c'était tous ces gens qui commençaient à vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de disques. Doc Gineco, Tonton David, tout ça. Puis ils avaient envie d'avoir des images qui leur collaient à la peau. Et puis j'étais à l'époque un des seuls réalisateurs qui pouvait un peu plus ou moins les incarner en termes de... Parce qu'il y avait beaucoup cette influence des Afro-Américains. Donc ils voulaient des images un peu chaudes, un peu plus travaillées que ce que faisaient à l'époque... les clips, réalisateurs du clip français. Et donc, du coup, on a conçu ensemble, toute cette famille-là, les premiers clips vidéo. Pendant 4 ans, j'ai fait ça. Pendant 4 ans, j'ai appris mon métier aussi, en parallèle. Donc, j'ai fait à peu près une quarantaine de clips vidéo. Ça se passait bien. Et parce qu'à l'époque, c'était quand même un art où il y avait pas mal d'argent. Et à la fois, c'était vraiment des vraies équipes de cinéma. Aujourd'hui, je sais que les réalisateurs de clips travaillent avec 3-4 personnes. Et puis, ils font tout en même temps. Nous, on déplaçait 10-20 personnes pour faire un clip. Hein. C'était comme un mini court-métrage. Et donc, j'ai vraiment appris à travailler la technique, l'image, le jeu, parce que j'écrivais un peu des petites histoires. Et ce qui est un peu ma marque de fabrique. Et puis, à un moment, je crois que j'en ai eu marre un peu d'interpréter ce que les autres racontait, et donc je suis parti aux Antilles, je suis rentré chez moi, et là j'ai écrit mon premier long métrage, Negmaron.
Nègre marron, qui est un très beau film, dans lequel on retrouve notamment une très belle distribution, notamment Admiralty, Dali, on retrouve également Stony Boxy, Jocelyn Béroir. Et tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui m'a vraiment tilté. Tu as dit que tu aimais raconter des histoires. Et en parlant d'histoire, il y a l'un de tes films qui m'a beaucoup marqué, Le Gang des Antillais, qui est sorti il y a quelques années, dans lequel tu mets en scène en fait l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Jimmy, qui se bat en fait pour survivre avec sa fille. Et c'est un film également qui évoque également son entrée dans Le Gang des Antillais. Le Gang des Antillais qui évoque en fait la colère, l'exaspération quelque part de la communauté en fait caribéenne qui arrivait en métropole avec le Bumidome. Et on retrouve pas mal de grands acteurs, notamment comme Eric Ebouanet, DJ Apali, Jocelyn Béroir, notamment dans ce film. Et ma question, c'est pourquoi tu t'es lancé en fait dans ce film, en fait, pourquoi avoir abordé cette thématique dans ce film, et est-ce que tu pourrais nous parler également du processus de réalisation tout autour de cette œuvre?
Oui, alors, vous savez, un réalisateur ou une production, je ne fais jamais les choses par hasard, hein. C'est un projet. Donc il y a déjà un projet qui naît dans la tête d'un réalisateur ou d'un producteur. Et souvent, on regarde si ce projet est viable. C'est vrai, on croit que finalement, on décide de faire un film et puis voilà, ça va être une évidence. Mmh. Et souvent, il y a des projets, des idées qui ne sont pas viables économiquement. Donc, du coup, on les abandonne. Mais en tout cas, moi, j'essaie de choisir des projets qui peuvent avoir une résonance dans ma communauté. Mmh. Donc, c'est-à-dire que ce projet est né, il y a à peu près une quinzaine d'années. Alors, c'est très bizarre. Mmh. Hein. Et j'étais, moi, déjà en train de réfléchir sur Nègre Marron. Et puis, j'avais ce bouquin dans les mains de Luc Léry. Et puis, il y a un jeune patron de Trace TV, Olivier Lauchez, qui est venu me voir, justement, en Guadeloupe, pour raconter l'histoire. Et puis, il me dit, voilà, Jean-Claude, j'ai une histoire qui pourrait être formidable pour toi et tout. Et je lui dis, mais Olivier, j'ai déjà un truc à faire. Donc, si tu veux, je fais mon film, là, mon premier. Et après, on se reverra, c'est tout pour le gang. Et puis, ça a mis à peu près une dizaine d'années. Mmh. Et quand j'ai repensé à ce projet-là, j'ai dit, tiens, voilà, aujourd'hui, il y a une telle... Il y a une telle défiance dans notre société des uns des autres, et puis souvent cette défiance elle est née parce qu'on connaît pas la culture de l'autre, on sait pas pourquoi elle est en France, je parle de toutes les communautés maghrébines et africaines, on sait pas qu'est-ce qu'on fait en France, il y a rien qui raconte, en tout cas ceux qui sont censés être nos voisins de table ou professionnels, il y a rien qui nous raconte nous. Mmh. Et j'ai dit, mais ça serait vraiment intéressant, à part les livres d'histoire souvent lequel on est entre deux lignes, ouais. On est au minima. Je dirais que ça serait intéressant de raconter comment ma communauté est arrivée en France, comment nous on est arrivé en France. Et je trouve que raconter autour d'un documentaire, c'est vrai, parfois c'est très fastidieux, mais raconter autour d'une fiction, ça peut être aussi quelque chose de très ludique et à la fois de très conscient. Donc j'ai essayé de mélanger à la fois cette envie de partager vraiment l'histoire, mon histoire et l'histoire commune, parce que c'est une histoire dans laquelle n'importe quelle communauté peut percuter, peut se retrouver. Hein, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est pas l'université pour moi, c'est pas raconter que les Antillais, mais c'est aussi faire le miroir de la communauté vietnamienne, maghrébine, voilà, c'est-à-dire que c'est l'interface. Et donc j'ai essayé de réfléchir comment je pouvais vraiment faire un film à la fois conscient, mais qui pouvait être aussi un film, un genre de polar. Mmh. Et je crois que c'est vraiment ce que réussit par contre des réalisateurs comme Costa Rica, comme Spike Lee, ou Scorsese, ils racontent leur communauté, mais ils en font des grands films. Mmh. Et je pense que nous, c'est ce qui nous manque, c'est pouvoir avoir le droit de citer, le droit de faire des films de cinéma, mais en incluant notre sens historique. Donc ce projet est né vraiment dans cette envie-là, parler de nous, mais en faisant du cinéma. Et donc j'ai été voir un produit, enfin j'ai commencé à développer l'histoire, l'écriture, et puis c'est des process qui sont très longs, parce qu'ils sont très longs au niveau de l'écriture, parce que c'est vrai que si on veut atteindre un niveau pas d'exigence, mais de compétitif, c'est-à-dire on peut écrire une histoire et puis elle est originale, et puis évidemment ça passe tout seul, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de filtres pour arriver à intéresser un producteur, et c'est souvent le scénario qui compte. Hein. Donc j'avais écrit une première version qui faisait à peu près 100 pages, 120 pages, et puis j'ai proposé à un producteur, et puis il a trouvé qu'il y avait quelque chose d'intéressant dedans, en sachant très bien que les difficultés qu'on allait avoir pour trouver le financement. Et donc on est parti avec Sébastien Onomo, mon producteur actuel, et puis on dit voilà, on en tient quelque chose qui peut être à la fois un film de genre, parce que moi j'aime bien aussi le cinéma coréen, donc l'idée c'est que pour moi c'est pas simplement de faire un cinéma qui m'est propre, mais de retrouver tout ce que j'aime comme influence dans mon travail. Et donc on est parti là-dessus, puis on a développé le film pendant 4 ans. d'écriture et de financement aussi, pareil. Et puis, une fois ce process terminé, au bout de 4 ans, on a dit, OK, on a... Alors, c'est ce qui est... La petite histoire, c'est que nous, c'était un budget au départ qui était un film moyen en France. Ça coûtait à peu près 4 millions d'euros. Mmh. Et pour un tournage lambda de cinéma, il faut compter entre 8 et 12 semaines. Mmh. Ça, c'est, on est dans des formats basiques de films lambda.
D'accord.
Et nous, on s'est arrivé avec un budget rikiki. mais aussi, c'est de bonne guerre. Je disais qu'il ne faut pas qu'on soit naïf parce que c'est vrai qu'on arrive dans ce cinéma. C'est-à-dire que c'est, évidemment, il y a des films sur lesquels les budgets se montrent très rapidement et ce sont des films de comédie. Donc, je serais malheureux si ces films de comédie qui parlent de nous n'ont pas les budgets nécessaires. Ça serait, je pense à L'Ascension ou je pense à des films comme La DGT des yeux. Ce sont des films qui sont faits pour le très grand public. Donc, si eux n'ont pas d'argent, il y a un vrai problème. Mmh. Mais je conçois quand même encore aujourd'hui que les miens ne soient pas super financés. Alors pour, je dis aujourd'hui, ce n'est pas dire que demain ça sera la même chose. Mais en tout cas, je conçois que nous sommes, nous, dans une avancée dans laquelle on n'a pas encore les budgets nécessaires. Mais il faut faire quand même les films. Même si on n'a pas les budgets, il faut quand même montrer qu'on est capable de les faire. Donc on est parti avec un budget rikiki qui était de 1,8 million. Et avec un format de tournage qui était de 3 semaines, qui est vraiment très périlleux. On a dit il faut quand même qu'on fasse le film parce que ça serait un très mauvais signal à lancer à notre communauté puis au cinéma français de dire que ce film ne peut pas exister. Donc on a pris tous nos talents et on a dit ok, on va le faire et puis on va essayer de faire un très beau film pour montrer que malgré qu'on n'a pas d'argent, on a quand même des bonnes idées.
Bon, en tout cas, tu dis que vous avez essayé de faire un beau film. Moi, je trouve que vous avez réussi à faire un beau film parce que c'est un film qui est magnifique et c'est un film qui met en avant justement une part de notre histoire qui est vraiment importante. Et tout à l'heure, tu évoquais pas mal de noms comme Spike Lee, comme Scorsese. Et je voulais te demander du coup, quelles sont tes sources d'inspiration pour réaliser un film ?
Alors, moi, j'ai une multiculture de cinéma. C'est-à-dire que c'est vrai que je m'appuie beaucoup sur des réalisateurs des grandes époques, comme Peckinpah. Ce sont des réalisateurs qui m'ont fait prendre conscience que le cinéma, dans les années 80-90, qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de films très engagés. Je pense facilement à des films comme La Ligne Verte, tous ces films-là. C'est des films qui, à un moment, parlent de faits sociaux. C'est-à-dire que ce ne sont pas des films, entre guillemets, qui sont là que pour relater des histoires factuelles. Elles prennent leur essence dans des vrais films où on met à contribution le public. C'est-à-dire qu'on interroge le public sur des faits de société. Mmh. Et, ou sur des scandales, ou sur ces événements. Et on demande au public, voilà, il s'est passé ça dans ce temps-là. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, et on essaie de rendre compte. Mmh. Moi, je suis très influencé par ce cinéma-là. Ce cinéma qui arrive, alors, on pourrait dire un cinéma engagé, mais c'est plutôt un cinéma qui permet à un public de ne pas être déconnecté d'un moment donné d'une activité, je veux dire, sociale ou économique. Et nous, je pense que c'est vrai qu'on pourrait penser qu'on n'a pas d'activité, c'est-à-dire qu'on n'existe pas dans le débat politique ou dans le débat social ou dans le débat économique, et parce qu'il y a très peu de choses qui parlent de nous. C'est-à-dire qu'on a peut-être un documentaire passé par là, il y a des écrivains, mais en tout cas, dans le débat populaire, on a très peu d'informations sur comment nous on évolue. Et je pense que mon cinéma est influencé par le fait qu'à mon sens, on doit quand même permettre à la génération qui arrive d'avoir des films, en tout cas c'est un peu ma partie, d'avoir des films qui leur permet à un moment de pouvoir réagir sur une époque donnée. Je prends l'exemple de mes enfants, de ma fille, de mon fils. Je serais très malheureux que si demain ils me demandent mais comment vivait ma grand-mère, enfin ma mère. C'est à un moment ils me demandent parce qu'il y a rien qui atteste leur vécu populaire, leur vécu du quotidien, leur angoisse, tout ça. Et donc je pense que c'est vrai que nous, en tout cas moi, j'ai l'engagement, le devoir d'avoir des projets qui puisse un moment rendre compte de ce que nous on a vécu à des moments précis dans une génération. Alors voilà, donc j'essaie naïvement entre guillemets de reprendre à travers mes films toute une série de faits d'époque pour qu'on puisse petit à petit reconstruire notre parcours en tant que affrontier dans le débat national ou international.
D'accord. Bon, en tout cas, je salue ton initiative parce qu'on a vraiment besoin. Parce qu'on a vraiment besoin de ce genre d'initiative dans la mesure où les générations futures ont besoin de ce qu'ont fait les générations d'avant pour avancer. Et ce que tu fais justement avec ton art, ton œuvre, en fait, tu retraces ces différentes époques. Et en tout cas, je te remercie en tout cas pour ce travail que tu fais. En parlant d'évolution, est-ce qu'il y a une différence dans ton parcours de réalisateur, que ce soit au cinéma ou à la télévision ? C'est vrai que c'est quelque chose que le public lambda ignore, mais est-ce qu'il y a des différences du coup entre ces deux C'est du schéma.
Oui, totalement. C'est-à-dire qu'en télé, ce sont souvent des commandes. Donc, la série Tropicamère et le téléfilm Rose des soldats, ce sont des projets qui sont nés par une productrice, Elisabeth Arnac, qui va avoir une chaîne et qui dit, voilà, j'ai un super projet, il n'y a rien qui s'est fait sur l'esclavage à l'époque. Il n'y avait rien, il n'y avait que Racine, il y avait Amistad. Et souvent, alors, ce qui m'étonne alors, en faisant une digression, c'est que ce sont deux périodes qui n'ont rien à voir avec les Antilles. Amistad et puis Racine, ce sont des c'est une histoire qui est liée aux Afro-Américains, mais qui est pas du tout le même commerce triangulaire que les Antilles. Même s'il y a des similitudes, mais c'est vraiment, il y a rien à voir en termes de géographie, d'intensité, mais même de culture à l'intérieur même de ce périple. Et donc il y avait rien du tout. Donc moi j'avais fini Nec Marron, elle avait vu ce film-là. En France, et puis m'appelle, moi j'étais aux Antilles, je vivais encore en Guadeloupe, et m'appelle, elle me dit, voilà, j'ai un projet pour vous, je sais que vous n'avez jamais fait de télé, mais c'est un formidable projet, vous allez voir et tout ça, donc elle m'envoie le projet, et puis moi je suis complètement, alors moi je ne m'intéressais pas du tout au cinéma historique, hein. J'étais plutôt dans un cinéma très 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 contemporain, hein, avec Nec Marron, je voulais faire un autre film aussi pareil, dans la même énergie, et c'est vrai que cette série-là m'a fait comprendre justement l'importance qu'on pouvait avoir à nous raconter, à travers notre histoire, mais je l'ai pas perdu en tout cas ce côté entre guillemets ludique, c'est-à-dire qu'on peut se raconter et c'est ça que ce sont qu'on aurait pu nous reprocher, c'est que quand on se rend compte, on a un côté un peu rébarbatif, on dit ouais l'esclavage ça va, on connaît ça va, mais non pas du tout, on connaît rien du tout, c'est vraiment du fantasme, on connaît rien du tout notre histoire, et donc l'idée c'était de leur dire ok vous pensez vous connaissez, mais on va vous montrer comment on peut connaître autrement, mais sans vous faire peur et fuir la télé. Donc moi j'ai conçu entre guillemets avec tout le sérieux, parce que c'était fait quand même par des historiennes, cette série, c'était écrit par des historiennes, Myriam Cotillas. Et c'est pour ça que je pense que c'est important aussi de quand on fait des films historiques, il faut que ça soit indéboulonnable. Il faut vraiment que ce soit des films sur lesquels demain les spectateurs peuvent prendre référent, quoi. C'est-à-dire que toutes les dates sont vraies, il n'y a pas du tout une sorte de fiction arrangée, tout ça. Ce sont quand même des vrais projets réfléchi, écrit et travaillé, et comme le gang aussi, toutes les dates sont vraies, enfin voilà, c'est vraiment cette partie-là qui m'intéresse, c'est de rendre des projets sur lesquels on est très à cheval sur le fait historique. Après, il y a la fiction, des personnages, mais ils s'ancrent quand même dans quelque chose de véridique. Et le travail en télé, pardon, c'est un travail sur lequel il y a beaucoup de répondants, c'est-à-dire qu'on doit répondre à la chaîne, parce qu'il y a un audimat, ça c'est une évidence, c'est-à-dire que quand on vous confie un projet, c'est qu'on attend de vous qu'il marche, hein. Vous allez peut-être avoir votre engagement personnel, mais on vient voir parce que vous avez une signature de réalisateur, mais on vous demande aussi, il ne faut pas que les spectateurs ils ferment la télé, passent sur la chaîne à côté. Donc on s'assure que vous allez suivre quand même le cahier des charges, c'est-à-dire l'audimat, de faire un film qui va marcher en télé. Ensuite, il y a aussi cette pression qu'on va avoir parce que ce sont des projets où il y a évidemment de l'argent, parce que c'est financé par les chaînes télé, mais aussi il y a aussi un temps donné pour le rendre à la chaîne. Donc ce sont des calendriers qui sont très très réduits, on a un confort financier, mais on a quand même des impératifs de temps de rendu. Donc il n'y a pas le temps de réflexion, il n'y a pas ce côté, on pourrait dire, artistique, on va réfléchir pendant 3 heures sur une scène. Non, c'est vraiment la télé, c'est du rendement. Il faut aller vite, il faut être précis, il faut avoir vraiment une bonne maîtrise de la technicité, du jeu, des comédiens. C'est pour moi, faire un téléfilm, c'est la vitesse de 3 longs métrages, quoi. C'est vraiment, il faut être hyper performant, hyper percutant. Et puis c'est un exercice, moi, qui m'a beaucoup aidé, justement, et je pense que Tropicamère, pour revenir sur ce téléfilm-là, c'était un 6x52. Ça m'a permis, justement, d'attraper une vraie compétence pour faire le gang. Parce que je pense que si aujourd'hui on a réussi à faire le gang dans 3 semaines, c'est parce que j'ai beaucoup appris, en télé, quoi. Donc oui, je veux dire que la télé m'a aidé à être meilleur en cinéma. Et la grande différence en cinéma, c'est que en tout cas, dans les miens, je m'en fous du spectateur. Au contraire, j'ai envie d'avoir mon public, mais mes sujets ne sont pas du tout dépendants d'un format économique, ne sont pas du tout dépendants d'une vogue, réussite. C'est absolument, je prends des sujets qui sont au départ ne sont pas des films, ce sont des films de niche, voilà. Des films de niche qui s'adressent à un public très précis, qui s'élargit de plus en plus, heureusement pour moi, sinon je serais plus là. Mais ce sont des films qui interrogent, comme ton émission, qui interrogent la question de la situation, de ce que nous on fait dans le grand débat commun, quoi. Et donc voilà.
Et justement, en parlant de grands débats communs et de questions, j'aimerais justement évoquer avec toi la représentation des personnes racisées, des personnes noires dans les arts visuels. J'ai une question à te poser, qui est sensible, mais pour moi qui est importante de te poser. Est-ce que tu penses que le cinéma français, en perpétuant un certain nombre de clichés, cherche quelque part à rassurer le public caucasien dans son optique de domestiquer l'homme noir au cinéma?
Totalement. Non, totalement. Et c'est ça la grande blague du cinéma, c'est qu'elle perpétue cette idéologie de montrer toujours ce qui rassure un public. C'est-à-dire que le cinéma français est le même que dans une société française. Hein. Elle a besoin de je peux dire pas d'inférioriser, mais de classer par des strates une communauté. C'est-à-dire que, en tout cas, nous, afro comme on est, on a besoin de voir comme des gens qui sont capables d'être des gens qui peuvent être au service. Donc c'est la culture de la France, et elle a besoin, elle a créé l'indigénat, elle a créé la colonisation, elle a créé l'esclavage, le système esclavagiste, donc elle a besoin de main-d'œuvre pour profiter, pour être, je veux dire, peut être aussi compétitif sur des marchés. Donc le fait que le média télévision ou cinéma continue à perpétrer cette image du noir qui est dans un métier de service, c'est ce qu'a fait. C'est-à-dire que même s'il y a deux caricatures, soit on est dans des métiers de service, ou soit on est dans des métiers d'anxiogénité. C'est-à-dire que soit on est des délinquants notoires, ou soit on est des services. L'entre-deux n'existe pas pour eux. Et moi, malheureusement, quand je suis entré dans moi, je suis entré parce que je pensais vraiment que c'était pas un art discriminant, c'est que tout le monde avait une compétence, que c'était presque le meilleur qui gagnait, quoi. Et en fin de compte, j'ai découvert que c'était le métier le plus discriminant qui puisse exister. Enfin, je connais pas les autres métiers. En tout cas, je me suis vraiment aperçu que c'est un métier où c'est un métier très hiérarchisé. Alors, évidemment, il y a en haut, il y a les réalisateurs et les producteurs, mais c'est un métier qui est extrêmement hiérarchisé, et c'est un métier sur lequel nous, on a eu pendant, enfin là, ça change hein, tout doucement, mais moi, ça fait à peu près maintenant 25 ans que je suis dans ce métier-là, et j'ai eu des claques raciales incroyables. C'est-à-dire que c'est un des métiers, et en plus, ce qui est étonnant, c'est que je crois que les gens qui sont, c'est ce que j'ai compris, c'est qu'ils sont tellement endoctrinés ou aliénés, c'est que ceux qui sont en face de nous ne se rendent pas compte du mal qu'ils nous font. C'est assez étonnant. Ils ne se rendent pas compte du tout du mal qu'ils font parce qu'ils sont éduqués par la télé, éduqués par les médias, éduqués par l'éducation nationale. Et puis, eux, ils réagissent d'une façon automatique. Il n'y a pas de réflexion de dire, mais peut-être que là, je ne suis plus du tout dans les clous avec la personne qui est en face de moi, il faut que je réfléchisse un peu. Non, il n'y a pas ça. C'est qu'on réagit d'une façon intuitive. Enfin, ils réagissent d'une façon intuitive. Et cette intuitivité, c'est parce qu'ils ont été bercés par un cinéma des années 40, 50 qui leur a montré depuis toujours que le noir doit être infériorisé et que s'il est intelligent, c'est vraiment parce qu'il est exceptionnel. Donc il y en a un qui est exceptionnel, il n'y en a pas deux.
D'accord. Et je trouve ça super intéressant ce que tu évoques parce que ça fait justement écho à la prochaine question que je compte te poser. Noir n'est pas mon métier est un essai justement collectif qui est sorti il y a très peu de temps, qui a été initié par l'actrice française Aïssa Maïga et qui narre justement en fait les témoignages et les réflexions de 16 comédiennes françaises noires qui ont été confrontées à pas mal de situations discriminatoires. Et je voulais justement te demander d'évoquer avec nous justement les difficultés auxquelles sont confrontés les hommes noirs, les hommes racisés, dans le milieu du théâtre, dans le milieu du cinéma. Est-ce que toi-même, d'ailleurs, tu as été confronté à ce genre de situation et justement évoquer cela avec...
Alors moi je dirais non parce que je me suis jamais posé en victime, et c'est la première chose, hein. c'est ça qui est délicat, c'est que je pense que des fois on est, comment je pourrais dire ça, on peut refuser d'être dans ce débat-là, ou dans ce jeu-là. Moi j'ai jamais été dans un débat de victimaire ou tout ça, j'ai pris très tôt mon courage, ma force, ma virilité, mon intelligence pour imposer très clairement ma situation. Donc même quand j'allais voir des producteurs, les chaînes, machin, j'avais un discours très égalitaire. Je me suis jamais posé ça en demandeur. Voilà. Ensuite, c'est clair que il faut aussi bien comprendre qu'en face de nous, il y a des gens qui, des fois, ont envie de bien faire, mais ils ne savent pas comment faire. C'est ça, c'est-à-dire que le grand débat aujourd'hui, c'est que on n'est pas dans des rapports de guerriers, on est dans des rapports d'incompréhension, c'est-à-dire qu'on ne se comprend pas. Donc il faut avoir le discours pour essayer d'expliquer d'une façon pédagogique, comme tu fais avec un enfant, qui tu es et comment tu peux agir et comment la personne peut t'aider. Moi, je sais, sur mes films, au départ, les gens, les chaînes télé, par exemple, si je prenais avec Marron, ils comprenaient absolument du scénario, c'était en créole et tout, et ils avaient, voilà. Mais avec beaucoup de manières d'intention, que j'ai fait passer chez Cannes avec ça, j'expliquais qui on était et quel est l'intérêt à un moment d'essayer de travailler avec nous. Et je pense que ça les a touchés, ils ont eu envie de faire ce film avec nous. Et je crois que c'est ça, c'est que si tu te positionnes en victime, bah, c'est fini, c'est terminé. C'est-à-dire que tu seras définitivement pris dans une sorte de faisceau. Si tu es sage, on te donne ce que tu as besoin. Si tu n'es pas sage, tu n'auras pas. Et je pense que c'est un peu ce que peut, c'est entre guillemets, c'est, je peux reprocher un peu à cette équipe-là. C'est que parfois, il faut vraiment ne pas attendre énormément. Il faut aller vers les gens qui fabriquent. Si vous ne fabriquez pas, je pense aux comédiennes, si vous n'êtes pas des gens qui fabriquent des projets, allez vers ceux de votre communauté qui fabriquent des projets. Je veux dire, c'est pas la peine d'être toujours demandé à ceux qui vous piétinent, qui vous insultent de vous aider à quoi que ce soit. Je veux dire, on est assez nombreux, il y a assez de réalisateurs. Alors, si eux les connaissent pas, moi je les connais. Alors, on dit, oui, il n'y a pas de réalisateur, il n'y a pas de scénariste, c'est archi fou. Il y a des gens de talent, mais partout dans le monde, enfin, partout dans notre communauté. Et moi, j'aurais vraiment envie de leur demander, mais pourquoi vous n'allez pas voir des réalisateurs, des scénaristes de votre communauté? Et vous avez une certaine autorité qui était à un moment très, très éclatante. Voilà pourquoi il n'y a pas eu des collaborations. C'est ce qu'ont fait les Afro-Américains. Et les films comme Albéry, elle a été sur des projets sur lesquels c'était sa communauté. Et donc, je pense qu'il fallait avoir ce réveil un peu plus tôt qu'il y a un an. Quoi. Après, c'est très bien. Moi, je trouve que quand on se conscientise, entre guillemets, il n'est jamais trop tard. Mais il faut être aussi juste sur ce qui ne s'est pas fait avant.
Tout à fait. En tout cas, je te remercie en tout cas pour ton avis sur la question. Et en parlant justement de ce qui s'est passé avant, est-ce que tu penses que ces films, entre guillemets, dits comiques, notamment je pense au film Black Big Mac, qui est sorti en 86 avec Jacques Villeray et Isaac de Brancolet en tête d'affiche, est-ce que tu penses que ces films-là, entre guillemets comiques, ont été nécessaires justement pour permettre à des films conscients de passer plus facilement à l'heure?
Oui, c'est ça, exactement. Moi, je suis pas dans le déni, hein, parce que si on les refuse, il n'y a rien. Et s'il n'y a rien, on ne peut pas construire. Donc oui, je suis d'accord avec toi, je pense que c'était... Même si ça nous a fait du mal, entre guillemets. Moi, j'ai beaucoup rigolé sur Black Pink Mark, hein, mais c'était une époque aussi, c'est une époque. Hein. Ouais. J'ai moins rigolé sur les comédies qu'il y a d'aujourd'hui, parce que je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de faire des choses qu'on faisait il y a 30 ou 20 ans. Donc là, aujourd'hui, ils sont moins pardonnables. Hein. Ouais. Donc c'était le début. Thomas Gilou, qui est un ami, qui a fait. Et je trouve que ça en est vachement bien sorti, parce que c'est même si on regarde Black Pink Mark, il faut savoir ce qu'il y avait à côté de Black Pink Mark. Ouais. Et c'était encore plus affreux.
Il y avait tout un contexte.
C'était plus affreux. Et je pense que l'équipe de Thomas Gilou a, au contraire, essayé de redonner un peu de noblesse. À la perception qu'on avait à l'époque des immigrants, quoi. Et oui, pour te reprendre, je pense que c'est ça. On arrive aujourd'hui, en tout cas, si mon cinéma existe, c'est parce qu'il y a eu d'autres cinémas sur lesquels qui m'ont fait réagir pour et contre. Donc voilà. Donc je pense que oui, aujourd'hui, on est une génération qui arrive aussi. Je pense à cette génération qui arrive des 20, 35 ans et qui vont commencer à faire leurs films, commencer à déposer des projets, commencer à réagir. Et je pense qu'il faut vraiment qu'ils regardent ce qui s'est passé avant. C'est ce que j'ai fait. Hein. Je regardais tous les films qu'il y avait avant pour dire là, il faut que je sois un peu conscient. Là, ça c'est pas très joli. Il faut pas que je rentre dans ces pièges-là. Le cinéma, ça demande vraiment une vraie maturité. Quoi. On fait pas un film sans maturité. On a une grande responsabilité parce qu'on essaie de toucher des milliers ou des centaines de milliers de gens. Donc il faut avoir cette réaction de dire voilà, j'écris pas que pour moi, j'écris aussi parce que demain mon travail va perdurer dans le temps. C'est un film, ça peut avoir une vie et à vie éternelle. Donc il faut vraiment avoir un projet sur le long de ce qu'on veut faire en termes de d'éducation ou en termes de narrativité. Voilà. Donc moi je fais partie des gens qui n'écrasent pas ou qui piétinent pas ce qui s'est passé avant moi. Mais par contre, je regarde ce qui se passe aujourd'hui. Et je suis pour ou contre, j'ai un avis personnel sur des films que je vois et que je trouve dommage que des fois les réalisateurs ne soient pas, alors c'est un débat là qu'on peut avoir, c'est que qu'ils peuvent aussi des réalisateurs afro, et je pense qu'on n'est pas plus entre guillemets, notre aliénation, elle n'est pas plus belle ou plus intéressante parce que tu es noir qu'un blanc. Quoi. Genre, on peut être malade de la même façon. Le blanc ou le noir peut être malade de la même façon. Et c'est pas parce que tu es noir que tu as peut-être plus de sensibilité de parler de ta communauté sans rentrer dans des clichés ou au contraire, la faire partir 10 ans en arrière. Quoi.
Tout à fait. Et du coup, en parlant de ce que tu apportes justement au cinéma français, qu'est-ce que tu penses apporter au cinéma français qui n'existe pas encore à l'heure actuelle? Quelle est ta petite touche en fait que tu rajoutes avec tes films?
Alors je pense sincèrement, sans prétention, je pense que mon cinéma est un cinéma d'engagement, mais qui a envie de séduire le plus grand nombre. Voilà. C'est-à-dire que je fais un cinéma qui parle de c'est-à-dire que mon cinéma n'intéresse pas que les entiers, heureusement, il intéresse tous ceux qui sont sensibles à la question de l'inclusion, de l'histoire, tout ça. Mais à la fois, je suis un cinéaste, je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas un historien, je ne suis pas un écrivain, donc je fais du cinéma avant tout. Donc je sais faire du cinéma avec vraiment de la mise en scène, avec de la lumière, des costumes, tout ça. Donc je pense que et c'est ça qui est intéressant parce que dans ce milieu-là, bon, je veux dire, je suis un peu repéré, mais pas du tout authentifié. C'est-à-dire que la moyenne des producteurs ne connaissent pas Jean-Claude Barni ni les comédiens. Mais en tout cas, mon cinéma permet à une partie de ce qu'on appelle cinéma d'auteur d'exister, mais avec beaucoup plus de corps. Quoi. Parce que le cinéma d'auteur, c'est souvent, on voit ça un peu avec une mauvaise lumière, avec des comédiens qui jouent, mais comme s'ils étaient dans leur cuisine. Mais moi, j'amène un cinéma qui est plutôt très, 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 très flamboyant, entre guillemets, très, très flamboyant. Donc, je pense que je donne à ce cinéma français, alors je peux dire un peu de couleur, mais je leur donne un peu de virilité. Voilà. Je donne de la virilité au cinéma français.
Tout à fait. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec ton cinéma, c'est deux choses. C'est que non seulement tu mets à l'honneur notre histoire, tu la fais connaître à l'autre, ce qui fait que tu crées un pont en fait, entre nous et les autres. Ce pont en fait, qui pourrait nous permettre de mieux nous comprendre et je pense aussi de mettre un terme petit à petit en tout cas à la discrimination, parce que pour moi je pense que la discrimination en fait résulte en fait de l'ignorance de l'autre.
Totalement.
Et la deuxième chose moi qui me marque dans ton cinéma, c'est que tu mets en avant nos talents, tu mets en avant des acteurs des fois qu'on ne voit plus depuis un bon bout de temps aux écrans. Je pense notamment à Alex Desca que j'apprécie beaucoup. Et c'est important justement de mettre en avant ces talents-là et je tiens encore une fois à te remercier de le faire. Et tu as évoqué tout à l'heure tes origines. Tu viens de Trinidad et Tobago et tu es africain de par tes origines. Et je voulais te demander quand et comment tu as pris conscience de ton africanité.
Alors c'est très étonnant parce que c'est vrai que ma filière elle est beaucoup plus lisible du côté de Trinidad et Tobago. C'est-à-dire qu'en Guadeloupe, très vite ils ont gommé en Guadeloupe Martinique, ils ont gommé très vite nos essences africaines. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un vrai nettoyage ethnique, c'est-à-dire qu'on a tout mélangé, les scarifications et tout, etc. Mais par contre, chez les Anglais, du côté de ma mère, par exemple, je sais que mon arrière-grand-père était musulman. Était escarifié. C'est-à-dire qu'on a pu, par le côté trinidadien, savoir très vite qu'on est d'Afrique, très clairement. Ça se situe entre la Côte d'Ivoire et le Niger. On en a du mal parce que je pense que c'est sûrement une Nigérienne et un Ivoirien qui se sont rencontrés, se sont rencontrés sur les plantations trinidadiennes et qui après, de Trinidad, mon arrière-grand-père est parti en Guadeloupe. Et du coup, on a retrouvé cette majorité de la Guadeloupe. Mais je pense que c'est vrai sur les îles anglaises, je pense très vite, Barbade, Tobago, tout ça, ils sont très marqués de l'origine africaine. Quoi. Y a eu moins de gommage que sur les îles francophones.
Et du coup, dans toute cette richesse culturelle, comment toi, justement, tu as pris conscience de ton africanité? Est-ce que ça s'est fait dans la douleur ou est-ce que ça s'est fait... comme une évidence? Est-ce que l'éducation également a eu un impact là-dessus?
Oui. Moi, je fais partie d'une famille, en tout cas ma mère, qui était très consciente très tôt, dans les années 60. Elle était très militante sur la cause de la discrimination. Et donc, chez nous, en tout cas, il n'y avait aucun... Alors, c'est vrai qu'on dit toujours que cette génération, il y avait un déni de leur africanité, parce qu'évidemment, la connexion était tellement forte qu'ils n'avaient absolument pas envie de se rattacher à ce continent, donc on interdisait totalement cette source-là, parce qu'ils savaient très bien que si à partir du moment que les Antilles, et ce qui se passe après les années 70, si les Antilles commençaient à réfléchir en disant qu'ils appartenaient à un continent très puissant et très fort et très orgueilleux qui est l'Afrique, les luttes sociales auraient été différentes. Donc ils avaient plutôt dit non, vous êtes antillais, vous êtes dans le débat national, vous êtes dans une, vous êtes dans le débat de la République, donc du coup il y a rien derrière vous, il y a rien qui n'existe. Vous êtes vraiment en France. Et je pense que c'est quand il y a eu les premières claques raciales, les gens ont dit mais attendez, on est français, on arrive en France, on nous traite de plein de noms qui n'ont rien à voir avec le débat français. Donc, qui nous sommes? Et c'est, je pense que c'est toutes ces schizophrénies qui ont fait que tout d'un coup, beaucoup d'Antillais ont cherché leur racine, de dire, mais puisque en France, on nous rejette, mais d'où nous venons? Et il y a donc des 70, il y a beaucoup qui ont réfléchi. Enfin, je parle de toute la vague des militantismes, d'indépendantistes. Ils se sont retournés, enfin, avec la guerre d'Algérie, ils sont retournés sur les origines africaines. Mais nous, de ma main en tout cas, elle avait cette conscience que si jamais il n'y avait pas cette racine présente au-delà des Antilles, c'est sûr qu'on allait être noyé, quoi. Donc chez nous, il y avait beaucoup de culture africaine. Et puis c'est aussi l'époque où il y avait beaucoup d'étudiants africains qui venaient en France. Donc du coup, il y avait vraiment une sorte de mélange très très conscient de part et d'autre. Hein. Donc moi, ça n'a jamais été un grand débat chez moi. Ça, comme tu dis, ça a été d'une
évidence.
D'une évidence complètement. Que évidemment, si j'avais envie de savoir d'où je venais, ben, faut pas chercher bien loin. Hein.
Et justement, en parlant de ces rapports-là, justement, que tu as évoqué justement entre les Africains des Antilles et les Africains de la Terre-Mer, il y a beaucoup d'Africains qui sont nés en Afrique et beaucoup d'Afro-descendants dont les parents viennent d'Afrique. On a malheureusement tendance, beaucoup d'entre nous, pas tous, à pointer du doigt nos frères caribéens. Et souvent, on s'interroge beaucoup sur ce que nous, les afro-descendants et les Africains nés en Afrique, pensons d'eux, mais on ne s'interroge pas suffisamment sur comment vous percevez les choses, comment vous percevez justement notre regard sur vous. Et étant entier, justement, je voulais te demander comment tu perçois le regard que tes autres frères d'Afrique ont sur toi. Est-ce que tu sens un œil de rejet? Est-ce que c'est un regard d'acceptance? Comment tu vis les choses quand, par exemple, les Africains, tes frères de la Terre-Mère, en fait, te pointent du doigt?
Alors, je pense que je dois être un bon exemple. Parce que moi, j'ai beaucoup en Afrique, en passant par Sénégal, la Côte d'Ivoire, ce sont des endroits que je visite régulièrement dans une année. Et je t'assure que je n'ai jamais eu aucune sorte de suspicion, ou de déni, ou de d'exclusion. Je n'ai que des rapports très fraternels. Mais pas dans la naïveté, hein. C'est dans un rapport humain. D'accord. Je suis dans un rapport humain avec une autre personne qui me considère aussi comme quelqu'un de sa communauté. Donc, c'est des échanges. Enfin, moi, je n'ai jamais eu de débat entre guillemets, c'est ça qui est intéressant, et c'est toujours la position qu'on doit prendre pour que l'autre nous voit de cette façon-là. Je n'ai jamais eu un débat sur mes origines antillaises, c'est toujours sur des rapports très 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 directs, quoi. Je dis d'où je viens et ce qui se passe chez moi. Et puis, mais ça n'a jamais été une question, oui, mais vous, vous êtes bien là-bas et tout, et ça. C'est plutôt des rapports très 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 sains. Les seuls rapports, je pourrais te dire que parfois, qui ont été conflictuels, c'est parce que souvent il y avait quelqu'un qui était là et qui mettait les zanies. Et ceux qui mettent les zanies, c'est l'Occident. C'est ça le problème. C'est que quand tu rentres une éducation, et je crois que c'est ça qu'on n'a pas pris en compte, c'est qu'une construction mentale, ça se fait aussi à travers l'éducation de quelqu'un, quoi. Et la construction mentale des Africains et des Antillais, ils sont passés par une sorte de
division intracommunautaire, enfin une sorte de...
Totalement, totalement. Ouais. Et c'est ça qui fait que d'un coup, ben, on sait pas pourquoi, mais on n'aime pas l'autre. On n'aime pas son frère caribéen, mais on sait pas pourquoi, mais c'est parce que, évidemment, on nous a vraiment aussi donner ce genre d'indicateurs que se rassembler, c'est dangereux pour l'intégrité, quoi. Ou aimer quelqu'un qui est de l'autre bout, on doit se méfier, quoi. Et c'est ce qu'on voit aussi dans l'éducation, dans la façon dont la France, je vais pas dire le mot gère, mais en tout cas, il y a un mot qu'ils adorent, c'est l'assimilation. Donc, comment la France a assimilé ses immigrants? C'est-à-dire que c'est tout le temps en défiant, dans de la défiance, et jamais en accueillant. C'est toujours de la défiance, de la suspicion, et tout ça. Et puis, ils ont réussi à gangréner toutes les colonies qu'ils ont eu à un moment sur l'homme. C'est d'abord être dans la suspicion de l'autre, de celui qui vient pas du même terrain que toi, et que le seul qui peut à un moment trouver grâce, c'est l'homme occidental ou la femme, c'est la seule personne qui a autorité, quoi. Mais tout ce qui est de ton origine, même si elle est dans le Caraïbe, d'abord sois suspicieux, parce qu'il te veut forcément quelque chose de pas forcément positif. Et ça, c'est ça fait partie de la déconstruction qu'on doit avoir. Après, bon, je pense que ça appartient aussi à une ancienne génération. Je pense qu'aujourd'hui, le média a tellement éclaté que maintenant, celui qui croit encore, il vit dans une grotte. Hein.
Ouais.
Donc, je pense que c'est... Voilà. Mais le combat continue et il faut rester vigilant parce que...
Et justement, je voulais aborder cette question-là parce que c'est vrai qu'on a, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, dans notre éducation, dans l'inconscient collectif afro, on a souvent érigé dans nos esprits le préjugé du noir contre le noir. Et pour moi, c'était vraiment important de l'évoquer, même si c'est vrai qu'avec les médias, les choses tendent à évoluer. Mais il y a encore, malheureusement, au sein de la communauté afro, des personnes qui pensent encore comme ça. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais justement à la nouvelle génération, justement, par rapport à ça?
Ben, moi, mon producteur, il est camerounais. Et donc, c'est la même preuve même qu'on peut faire des choses ensemble. Et c'est toujours, c'est toujours ça, c'est que je pense que ce qui est tout nouveau, et c'est pour ça que je pense que ça a mis beaucoup de temps à être intégré, c'est que, avant, on avait cette sensation de faire quelque chose de mal, de trahir. De trahir la France si jamais on se rassemblait et on faisait quelque chose entre nous. C'est-à-dire qu'on avait cette sensation de penser qu'on agit dans son dos, on fait quelque chose qui n'est pas autorisé. Et donc, je pense que cette éducation, entre guillemets, parce que c'était vraie éducation, de ne pas essayer de trouver auprès de nous ce schéma de compétences, a perduré. Je veux dire, nous, dans les Antilles, c'était flagrant. C'est-à-dire que moi, ce qui est très bizarre, c'est que moi, on dit des choses, je ne les ai pas vécues. Donc, je parle de des oui-dire. Mais je pense qu'il y a une réalité. C'est que très, très, très souvent, on disait, oui, mais tu sais, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, le personnel n'aime pas être dirigé par un compétent ou un chef de la même origine qu'eux. Alors, j'ai dit, ah bon ? Mais c'est meilleur parce qu'ils peuvent les comprendre. On disait, non, ils préfèrent être dirigés par un blanc parce que c'est mieux et parce qu'ils n'aiment pas que leur frère sorte devant, parce qu'ils n'aiment pas qu'un autre noir leur donne des ordres et tout. Mais je dis, mais comment vous pouvez accepter qu'un blanc vous donne des ordres et pas un noir? C'est quoi le problème? Non, ils n'aiment pas ça et tout. Et les seules personnes qui me disaient ça, c'était des blancs. Et j'ai jamais entendu un noir me dire non, j'aime pas qu'un autre noir me donne des ordres et tout, etc. C'est les blancs qui disent toujours qu'on n'aime pas que d'autres blancs, d'autres noirs nous donnent des ordres. Donc je pense que c'est un schéma d'influence, d'influence mentale pour nous faire croire des choses qui sont archi fausses, quoi. Moi ma mère traînait l'enfance en public, mes oncles c'est pareil, ils étaient à des postes intéressants mais ils n'ont jamais eu ce genre de conflit. Mais ce conflit-là est né dans la parole de quelqu'un d'autre qui avait intérêt que tout d'un coup on finisse par y croire, quoi. Et ça je parle des années 60-70, quoi. Et donc on a fini par croire qu'on n'aime pas être dirigé par d'autres noirs. Mais concrètement, ça n'existe pas. C'est dans la tête de ces gens-là qu'ils nous ont mis ça en tête. Et aujourd'hui, toute cabale a une fin. Et je pense que pas du tout. Aujourd'hui, les gens, au contraire, ils cherchent à être dirigés, à être accompagnés, parce qu'on sait que maintenant, on est bienveillant envers nous. Les Noirs sont bienveillants envers les autres Noirs. Et dès quand tu as un problème, je peux dire que la seule personne qui va te donner un coup de main, c'est ton frère. C'est pas l'autre. Il va au contraire te dire oui, super. Puis dès qu'il y a un moment, il va te donner une fausse note parce que tu fais pas bien ton travail. Mais la personne, en tout cas, qui va toujours te sauver d'une situation, c'est tes compatriotes. Et c'est normal. C'est pas des chauvinistes. Et moi, tous mes films, les gens qui m'ont toujours donné, entre guillemets, ce qu'on appelle naïvement une force, ce sont les gens de ma communauté. J'ai jamais eu de problème
de défiance.
Oui, absolument. On demande à voir. C'est normal. Je veux dire que quand tu fais un projet, c'est normal qu'on va pas te dire ah parce que tu es non, on va le prendre. D'abord, on regarde si tu es bon. Et si tu es bon, on n'est pas aussi naïf. Hein. On est des gens qui aiment la compétence. Si ton film est mauvais, il est mauvais. Et puis, c'est pas parce que c'est une histoire de noir, c'est parce que ton travail n'est pas à la hauteur. Et ça, il faut l'accepter aussi. Et il faut pas dire tout d'un coup ah ben les noirs, ils aiment pas mon film parce que non, c'est parce que ton film n'a pas trouvé un écho sur une population noire normale. On est des gens civilisés, on a des intuitions, on a une sensibilité et ça aussi je parle aussi des gens je pense à un ami qui a fait un projet et qui n'a pas eu le succès qu'il a révélé avec son film et qui a tout d'un coup a sorti cette carte de dire ouais mais moi j'ai fait un film, les noirs n'ont pas été voir mon film parce qu'ils n'aiment pas. Non, c'est parce que ton film était trop caricatural pour qu'ils puissent adhérer à ton projet et voilà, et c'est de bonne guerre. Et je crois que c'est ça l'éducation, c'est qu'il faut accepter que notre population soit très exigeante et qu'il faut travailler pour plaire. C'est un public comme tout le monde, hein, ils sont pas, c'est pas des moutons. Et la couleur ne te sauve pas.
Ouais, notre couleur ne te sauve pas et c'est le travail, en fait, un travail d'excellence qui paye. Et en tout cas, je te remercie en tout cas de l'évoquer parce que c'est vraiment important de l'évoquer dans une société où on fait malheureusement les choses vite et mal. Ouais. Toi, tu vas à contre-courant, tu prends ton temps pour faire les choses et tu fournis un travail de qualité et je tiens en tout cas à saluer tes initiatives. On arrive à la fin de ce podcast.
Déjà.
Ouais, déjà, ça passe très très vite. Et je vais justement te poser les deux dernières questions. La première, c'est pourquoi tu as accepté de participer à ce podcast et qu'est-ce que tu dirais aux Afropolitaines et à toutes les personnes qui nous écoutent?
Alors, j'ai accepté parce que tu as dit en début d'interview que, évidemment, l'homme et la femme sont liés dans un combat commun. Et je pense que c'est vrai, tu as tout à fait raison. C'est que si on veut vraiment essayer aujourd'hui, en tant que communauté fédératrice, avoir vraiment une force commune, il ne faut pas exclure l'homme. Ce n'est pas un combat féminin, ce n'est pas un combat masculin, c'est un combat commun. Ouais, et je pense que le fait que tu invites un homme dans un public, je pense que oui, c'est là aussi on montre qu'on est sensible aussi à la condition de la femme et qu'on a les mêmes sujets on a tous les mêmes sujets quoi. Ce que je défends c'est l'universalité. Je défends aussi le fait qu'on est d'abord des êtres humains et les êtres humains on a tous les mêmes engagements et que si tu parles d'être humain à un être humain on a les mêmes problèmes quoi. Et c'est ce que nous on nous dénie le fait d'être des êtres humains. D'abord on nous catalogue de notre couleur mais on oublie qu'on a des sensations, des évidences, on a des émotions comme n'importe qui. Et à partir de là tu parles des femmes, des hommes, et je suis un homme, je vais voir ce que pensent ces femmes. Voilà, donc c'est pour la première question. Et la seconde question, pourquoi
le dernier mot en fait à dire aux Afropolitaines, ouais, et à toutes les personnes qui nous écoutent?
Je leur dis que ce combat est noble et c'est un grand combat parce que on n'est pas au début ni au milieu ni à la fin, on est un peu ailleurs quoi. Je veux dire que aujourd'hui et je vais pas ça sans naïveté hein. Je dis qu'aujourd'hui pendant très longtemps on a été dénis de la parole, des faits et que on a tout à gagner aujourd'hui d'être alors c'est bête ce que je veux dire mais d'être rassembleur. Je veux dire que on nous a tellement divisés, on nous a tellement dénié que il faut vraiment avoir beaucoup, beaucoup d'empathie pour ne pas refaire la même chose que nous a fait. Donc, c'est être rempli d'amour, sincèrement, et je ne parle pas de naïveté. Hein. C'est-à-dire que si jamais, évidemment, on vous marche sur le pied, ben, il ne faut pas le tendre, hein, c'est clair. Mais il faut vraiment être un grand exemple parce que ce monde a énormément besoin d'être rassemblé parce que nous sommes quand même les derniers à avoir la parole. Il faut qu'on l'utilise à bon escient.
En tout cas, merci beaucoup, Jean-Claude, d'avoir accepté de participer à ce podcast.
Merci.
Merci et ça, beaucoup.
Et puis à toute l'équipe. Hein.
Ouais, qui m'accompagne dans ce projet, le studio Majorelle, que je remercie. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast sur l'Afropolitaine.